Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 2 octobre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Déjà en octobre,
déjà?
Ça va vite.
Oui.
Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine, puis peut-être un recap du mois de septembre?
Donc, septembre, on sait que c'est historiquement le pire mois de l'année, statistiquement. Donc, depuis 1950, là, bon, on entend sur de chiffres là, selon la date qu'on commence, là, mais celle que j'ai sortie ce matin, là, depuis 1950, en moyenne, le mois de septembre est positif seulement 45 % du temps et avec un rendement moyen de moins 0,87. Le pire mois de septembre avait été en 1974, l'année de notre naissance, à moins 12 %. Qu'est-ce qui est arrivé donc en septembre? C'est toujours tentant là, d'essayer de faire des anticipations de marché. On aurait pu dire, bon, mais à la fin d'août, les marchés vont bien, alors on quitte le marché parce que septembre, c'est pas un bon mois. Eh bien, le TSX a fini le mois de septembre en hausse de 3,1 %, le S&P 500 en hausse de 2,2 %, le Nasdaq en hausse de 2,76 %, même l'indice obligataire, obligation univers là, au Canada, en hausse de 1,9 % pour le mois. Donc, des obligations en un seul mois, 1,9 %. Donc, finalement, septembre aurait été un excellent mois, malgré, statistiquement, c'est le pire mois de l'année. Le meilleur mois de l'année, en passant, il s'en vient, c'est novembre. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner, étant donné qu'on voit que, tu sais, ça, essentiellement, des statistiques comme ça, ça veut rien dire. Tu sais, la stratégie, c'est toujours de demeurer investi dans des titres de qualité et de traverser ces périodes-là. On le sait qu'il va y avoir des périodes. Les rendements ont été exceptionnels depuis un an. Faut s'entendre que c'est pas la norme là. Tu sais, il faut tant mieux. On prend les rendements, on met ça dans nos poches, mais il faut aussi le voir un petit peu comme en ayant pris de l'avance pour faire face aux éventuelles périodes de baisse. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des périodes un petit peu plus difficiles. Quand est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée. Sarah non plus, elle a aucune idée. Et tous les grands stratèges qui sont dans les médias n'en ont aucune idée non plus. Du côté des obligations, ben on sait qu'on a eu des baisses de taux aux États-Unis. L'effet a été en fait à la hausse. On termine, bon, le taux d'intérêt des obligations de 10 ans étant la baisse sur le mois, mais depuis la baisse de taux, les taux d'intérêt des obligations de 10 ans ont légèrement augmenté. Donc, on est à 2,96 sur les 10 ans au Canada, 3,78 sur les 10 ans aux États-Unis. Le dollar canadien a légèrement fléchi à 73,9 hier. Beaucoup de tensions au Moyen-Orient. Je te dirais que si vous n'avez pas regardé le prix du pétrole, mais faites juste lire les nouvelles géopolitiques, on pourrait penser que le pétrole devrait être à plus de 100 $ le baril. On est à 71,7. À la fin du mois d'août, on était à 73,6. Alors, malgré une escalade des tensions au Moyen-Orient, on a quand même un prix du pétrole qui demeure assez déprécié. Et là, dans les nouvelles à plus court terme, ce qui pourrait nous inquiéter légèrement plus du côté des statistiques économiques, la grève du côté des ports, tant à Montréal que partout en Amérique, il y a beaucoup de pression. Puis on sait que ben toutes les marchandises doivent rentrer par là. Et donc, si ça fait un goulot d'étranglement, ça pourrait avoir un effet sur le ralentissement économique. Donc, on surveille ça de près. C'est pas quelque chose qui va faire qu'on va nécessairement là, bouger beaucoup un portefeuille, mais quand même, si l'effet, si ça prolonge, ben ça pourrait avoir un effet négatif sur les statistiques économiques là, dans les prochaines semaines.
Donc, ça peut causer de la volatilité à court terme, mais à long terme, les choses ont tendance à
se rétablir. Ça va finir par se régler, effectivement.
Merci beaucoup, Martin. Puisque nous avons parlé la semaine passée de fonds de pension, nous allons plonger dans un sujet complémentaire. J'ai trouvé qu'on a négligé une partie de l'équation pour certaines personnes et surtout pour les salariés qui n'ont pas de fonds de pension, le sujet des régimes de retraite collectif ou REER collectif. Donc, c'est qu'est-ce que nous avons, de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'un REER collectif, Martin?
Bien, un REER collectif, c'est un compte de placement auquel on adhère par l'intermédiaire de son employeur. Donc, c'est vraiment là, c'est un REER, comme tout le monde connaît. Par contre, la différence, c'est que les cotisations là, sont directement prélevées sur le salaire. C'est offert là, vraiment directement par l'employeur. Donc, c'est auprès des ressources humaines de son employeur qu'on va faire le choix des placements. Bien souvent, il n'y a pas nécessairement beaucoup de conseils. Là, on va nous donner un dépliant avec différentes options, puis on doit un petit peu s'arranger avec ça. Donc, tu sais, c'est qui gère ce REER-là? Ben, c'est vous-même. Là, il y a probablement un numéro 1-800 pour rejoindre la compagnie en question. Là.
Et souvent, les employeurs vont choisir une compagnie d'assurance qui fait aussi l'assurance collective et ça. Le REER collectif.
Il y a quelques gros joueurs dans le REER collectif. Là, c'est souvent les 3-4 mêmes là, qu'on croise. Donc, souvent, ben, comment est-ce qu'on cotise? Ben, on va demander à son employeur là, de prélever X % de son salaire. Parfois, l'employeur va cotiser avec. Là, mais donc, c'est sûr que c'est un très bon régime là, et c'est une façon facile. Ce qu'on constate, c'est que souvent, malheureusement, il y a certains clients qui savent qu'ils en ont un, ils n'ont pas vraiment adhéré, ils n'ont pas vraiment porté attention. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Je sais pas trop. Donc, ça mérite notre attention. Bien souvent, évidemment, on commence avec un nouvel employeur. Ben, il n'y a pas d'argent dans le régime. On n'est pas très, très intéressé. Mais 10, 12 ans après, là, des fois, il y a des dizaines de milliers de dollars. Puis, on sait toujours pas dans quoi qu'on investit ça. Donc, ça, je pense que ça mérite quelques minutes de notre attention.
Puis, avant de devenir conseillère, j'en avais une REER collectif. Puis, qu'est-ce que je trouvais le fun, c'est que j'y prêtais pas attention tout au long de l'année. Ouais. Et éventuellement, à la fin de l'année, j'étais surprise. Puis, waouh, ouais. J'ai plus d'argent que je pensais
là-dedans. C'est ça, 7-8 ans plus tard, t'es là, ah, tu sais, canon, j'ai comme 50 000 d'accumulé. Puis, tu l'as pas senti.
Puis, il faut dire qu'il y a des CELI collectifs maintenant aussi. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça existe auprès de certains. Un employeur pour aider les gens à épargner
dans le CELI. Ça me semble moins pertinent, mais oui. Moi, c'est bien de le mentionner.
Oui. Quels sont les avantages d'un REER collectif pour les employés?
Donc, c'est fait, le prélèvement est fait directement du salaire. Donc, l'économie d'impôt, on la reçoit immédiatement. Donc, si je... Tu sais, à l'inverse, si on cotise, mettons, 1 000 par mois chez nous dans le REER, mais on va aller prélever de votre salaire net, le 1 000 dans votre compte de banque pour le cotiser dans votre REER chez vous. À la fin de l'année, on vous envoie un reçu, puis là, vous faites votre rapport d'impôt, puis vous recevez un retour d'impôt. Dans le cas du REER collectif, ben votre paye net, en fait, donc le 1 000 il va être prélevé du brut. Donc, net d'impôt, là, votre paye net, elle va être inférieure de, mettons, 500 $ seulement, parce que vous allez avoir tout de suite bénéficié de l'économie d'impôt directement sur le salaire. Donc, qu'est-ce que ça va faire quand vous allez faire votre rapport d'impôt à la fin de l'année? Bien, ça fera rien. Là, vous n'aurez pas de retour d'impôt. Vous l'avez eu tout au long de l'année sur chacune des payes. Donc, ça, c'est très important là, de se rappeler ça. Ça ne vous donnera pas un retour d'impôt à la fin de l'année. Vous l'avez eu à chaque salaire. Bien souvent, les frais de gestion sont quand même moins élevés. Donc, les options qui sont offertes par l'émetteur du REER collectif vont être plus limités. Ils vont avoir quand même quelques options de placement, mais on bénéficie en quelque sorte d'une économie de groupe parce qu'on est avec des fois des dizaines ou des centaines ou des milliers de travailleurs à cotiser dans le régime. Il peut y avoir des produits avec des frais de gestion légèrement moindres. Puis c'est sûr que bien souvent, la majorité des REER collectifs, je pense que l'employeur cotise dedans. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais beaucoup de REER collectifs. Donc, par exemple, on va dire, ben, si vous mettez 1 $ dans votre REER, l'employeur rajoute 50 sous, par exemple. Ben, c'est quand même, tu pars l'année 1 avec, entre guillemets, 50% de rendement. Là, tu sais, donc, si votre employeur cotise à votre REER collectif, de grâce, c'est le premier dollar que vous allez investir. C'est contre nos intérêts, mais évidemment, il faut cotiser puis il faut prendre avantage de la portion employeur de son REER collectif. Si vous savez pas trop quoi faire, envoyez-nous les documents, on va vous aider avec ça. Il y a un des avantages aussi, souvent on reçoit un bonus. Donc, certains employés, là, ils ont un bonus annuel, ils ont des droits de cotisation inutilisés, ils n'ont pas vraiment besoin là, de ce montant forfaitaire-là. Bien, ils peuvent demander bien souvent à l'employeur de le cotiser directement dans le REER. Ça évite d'avoir des déductions à la source sur son bonus, puis le montant total peut parfois, si on a les droits, là, cotiser directement dans le REER
collectif. Puis de gérer un REER collectif comme ça, pour les employeurs et les employés, ça évite le risque, si quelque chose arrive avec la compagnie, puis on n'est pas capable de cotiser, ou la compagnie n'est pas capable de faire sa cotisation, notre REER n'est pas en péril, comme avec un fonds de pension.
Exact. L'argent, il est vraiment séparé, elle n'appartient pas à l'emploi. C'est vraiment cotisé auprès d'une entreprise de placement comme une compagnie d'assurance là, dans bien des cas. Desjardins étant un des gros fournisseurs là, de REER collectif, Desjardins Sécurité financière. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, ben, il y a une séparation complète entre l'employeur. Si on quitte notre employeur, ben, l'argent est toujours dans notre REER collectif. Là, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et c'est beaucoup plus simple quand même pour l'employeur.
C'est ça. Puis on peut prendre notre REER collectif souvent puis l'amener facilement soit chez son conseiller financier ou soit chez l'autre employeur. Donc, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Quels sont les avantages pour l'employeur?
Oui, pourquoi un employeur mettrait ça en place? Évidemment, un employeur veut recruter du personnel, veut fidéliser ses employés, veut leur offrir donc les meilleurs avantages possibles pour les garder heureux chez eux. Donc, c'est un outil de recrutement de dire, ben oui, gars, tu peux aller travailler à la compagnie A, mais nous, la compagnie B, on offre un REER collectif. Donc, pour la même rémunération, tu vas avoir une rémunération totale plus élevée. Donc, ça fidélise les employés. Par contre, si on compare, tu sais, pourquoi mettre un REER collectif au lieu d'un fonds de pension qui soit à cotisation déterminée ou à prestation déterminée, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins dispendieux à mettre en place. Bien souvent, la compagnie d'assurance là, qui va gérer le REER collectif s'occupe de tout faire, là, tu sais, presque. Il n'y a pas de coût pour l'employeur, c'est-à-dire de mettre en place le REER collectif.
Puis ça évite la relation, d'avoir une relation à long terme avec ses employés au niveau de leur retraite. Hein? Si on pense à des gros fonds de pension comme celui de GM où ça devient quelque chose qui est lourd pour une compagnie, une obligation pour une compagnie.
Exact. Une fois que le lien d'emploi est rompu, il n'y a plus de lien entre l'employeur et l'ancien employé. L'employé s'arrange avec son fonds de pension, avec son REER collectif, pour le gérer lui-même. Le lien est complètement terminé entre l'employeur. Alors que un fonds de pension, ben, tu as toujours un lien avec ton ancien employeur tant que tu es un bénéficiaire du fonds de pension.
Donc, en réalité, le REER collectif est une réponse à l'obligation que les compagnies avaient de maintenir les fonds de pension.
Ouais.
Et c'est quoi la différence entre le REER collectif et un REER individuel?
Donc, on a mentionné la gestion des cotisations. Donc, essentiellement, ça fonctionne de la même façon. L'argent qui est cotisé dans un REER, qu'il soit collectif ou individuel, est déductible d'impôts. Mm-hmm. La méthode de cotisation, ben, c'est vraiment de le faire directement par prélèvement à la source sur son salaire et de bénéficier de l'économie fiscale immédiatement. Alors que si on cotise dans son REER individuel, ben, si mon salaire brut, c'est 1 000 $, il me reste 600 $ après les prélèvements automatiques. Dans mon compte de banque, j'ai 600 $, puis là, je veux cotiser 200 $ à mon REER. Ben là, je cotise 200 $ puis il m'en reste juste... À la fin de l'année, je vais recevoir mon retour d'impôt, mais dans le REER collectif, je l'ai immédiatement. Et vraiment, l'employeur ne va pas cotiser dans votre REER individuel, là, mais si vous avez un REER collectif, beaucoup d'employeurs cotisent, on ne le répétera pas assez, là, si l'employeur cotise à votre REER, ne serait-ce que 10%, 20%, peu importe, profitez de chaque dollar que votre employeur veut vous donner gratuitement.
Absolument, ça fait partie de votre rémunération.
Exact.
Donc, qu'est-ce qu'on conseille aux clients avant d'adhérer à leur REER collectif?
Donc, faites-nous signe. Là, bien souvent, les clients reçoivent un package là, de 4-5 pages avec un questionnaire de profil de risque, un paquet de choix avec des mots compliqués puis des chiffres partout. Puis, ils n'ont aucune idée. Puis là, ils cochent un peu n'importe quoi. Là. Donc, dans les REER collectifs, ben, il y a bien souvent dans les choix de placement, il va avoir des fonds cibles, c'est-à-dire qu'on dit « Ah, ben moi, je veux prendre ma retraite en 2050. » On coche la boîte 2050, puis il y a une tarte là, qui va nous être allouée, une répartition d'actifs en fonction de notre date cible de la retraite. Et cette répartition d'actifs-là va être dynamique, c'est-à-dire que plus on va s'approcher de notre date de retraite, plus le portefeuille va devenir conservateur par nature. Donc, tu sais, c'est pas un mauvais choix de faire ça. Bien d'autres fois aussi, on va dire, OK, ben voilà les 23 fonds mutuels qui sont disponibles, où il y a certains indices là-dedans. Les clients regardent ça, les yeux viennent tout vitreux, puis ils comprennent pas. Donc, on peut bien souvent, on connaît ces produits-là, c'est pas toujours... des fois, c'est des équivalents à des produits qu'on utilise déjà. Alors, dans le doute, nous, ça va nous faire plaisir de vous dire, ben regarde, tel et tel fonds, ben on pense que c'est des bons fonds. Tu sais, le choix vous revient. Moi, je vous dirais, l'erreur que je vois le plus souvent, beaucoup de monde adhère au REER collectif, mais après ça, ils le regardent plus pendant 20 ans. Tu sais, quand vous recevez votre relevé, vous avez généralement le choix de modifier vos choix à chaque année. Donc, quand vous recevez ce choix-là, c'est peut-être une bonne idée, là. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Ça va nous faire plaisir de vous dire, ben regarde, dans les options offertes, ben, tu sais, t'as choisi tel gestionnaire qu'on, pour X raisons, on aime un petit peu moins. Peut-être que celui-là nous semble plus approprié. C'est simplement une opinion qu'on va émettre là-dessus, mais tu sais, en bout de ligne, le choix vous appartient. Puis, tu sais, nous, on n'a pas la responsabilité de faire ces choix-là, mais ça va nous faire plaisir de vous donner notre deux scènes d'opinion sur les choix qui sont à faire.
Puis, je pense que qu'est-ce qui arrive avec le REER collectif, pour me rappeler avant d'être dans le temps où j'étais pas conseillère, c'est qu'on reçoit l'information au travail. On est occupé, on est en train de faire bien des choses au travail et on ne pense pas à nos affaires personnelles. Et le REER collectif devient ou vient avec beaucoup de documentation.
Ouais.
Honnêtement, c'est plusieurs pages ouais. Et ça devient comme « Ah, j'ai pas le goût de regarder ça en ce moment ». Donc, nous, on est là pour vous épauler là-dedans.
Ouais.
Et je pense que c'est, comme tu as dit, Martin, c'est important de bien comprendre dans laquelle on dans quoi on investit et aussi les modalités de notre REER collectif. Donc, il y a des REER collectifs où on peut sortir l'argent une fois par année, puis on peut le transférer ouais. chez nous, puis on peut le gérer soi-même. Donc, si vous avez cette possibilité-là, nous, on s'occupe du reste. Donc, on peut vous aider à remplir, on vous envoie des formulaires de transfert à remplir. Nous, on l'envoie à la compagnie d'assurance pour transférer votre REER collectif. Donc, il y a vraiment du support pour vous à gérer vos REER collectifs.
Puis, tu sais, on a vu souvent au fil des années des clients qui vont dire, ah ben tu sais, avec Martin puis Sarah, ben j'ai un profil équilibré puis j'ai un rendement de X. Ah, puis tu sais, mon REER collectif, la performance est vraiment mauvaise ou la performance est bien meilleure. Bien, la réponse, c'est pas tant que le REER collectif est super bon, c'est que vous avez peut-être fait des choix, puis vous réalisez pas que vous avez mis tout en marché monétaire, puis là, évidemment, vous avez pas de rendement parce que c'est beaucoup trop prudent. Ou des fois, ils ont mis tout en action, puis ils ont une impression, puis ils touchent pas à l'argent, ils laissent le placement pendant 5, 10, 15 ans, puis là, ils disent « Ah, ben gars, j'ai un meilleur rendement. » Oui, mais t'as fait un choix aussi d'être une pondération en action plus élevée. Effectivement, statistiquement, si on a plus d'actions, on a une meilleure performance. Donc, au-delà de juste regarder la valeur du compte puis le rendement, ben, faut un petit peu décortiquer puis après ça, revenir avec une comparaison des pommes avec des pommes à répartition d'actifs égales, c'est quoi la performance?
Excellent point, Martin. Puis encore une fois, on est là pour vous aider à interpréter les résultats de votre REER collectif versus vos résultats avec votre REER individuel. On pourrait en parler longtemps, on va laisser ça là. Merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.